Popopien, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. La journée a bien démarré avec un petit message de Bruce Springsteen lui-même, un jeune musicien du New Jersey, ainsi libellé. Dieu merci, Biden va gagner. De l'amour pour vous tous de l'autre côté de l'océan. Les Américains ont survécu. Fin de citation. Et un Bruce qui retrouve un peu de confiance et d'espoir par un subtil effet de domino que connaissent bien les Springsteeniens, eh bien ça redonne un peu de confiance et d'espoir. Deux ingrédients qui nous sont aussi indispensables ce jour-ci, ces jours-ci que l'air et l'eau. Et puisqu'elle a bien commencé, la journée, elle va aussi bien finir avec une BD que l'on attendait en piaffant depuis quelques semaines. Le tome 2 de L'Âge d'or de Cyril Pedrosa et Roxane Morel. La suite donc de ce livre magique qui nous avait retourné la tête en 2019 comme les braconniers retournent les peaux de lapin ou les rabbins la peau de lapine. Oui, alléluia, cet Âge d'or 2 est enfin arrivé avec sa déferlante d'images stupéfiantes, son feu d'artifice de couleurs, sa narration déjà hissée au niveau des plus beaux contes de légende. Charline, calmez-vous. Bref, on respire mieux aujourd'hui. Pop, 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 en ce jeudi 5 novembre de cette année de merde 2020, c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, celle qui respire mieux aujourd'hui, Charline Roux. Allez, inspirez, expirez. Bonjour Charline.
Bonjour Antoine.
Voilà. Alléluia, donc cet Âge d'or 2 est enfin arrivé. Il est signé Cyril Pedrosa et nous allons en parler dans quelques minutes avec son auteur. Mais avant ça, dans ce dispositif particulier, nous allons vous donner tout au long du confinement des idées de livres à lire, de films à voir, de séries à découvrir ou à redécouvrir. Et on commence avec les pop choix de Christine and the Queens. Enfin Christine, enfin Chris, enfin bon, passé dans ce studio il y a juste quelques mois. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous avez porté votre choix sur Notre-Dame des Fleurs, ouais. Le premier roman de Jean Genet, écrit en 42, publié un an plus tard. Charline, n'est-il pas charmant d'appeler son roman Notre-Dame des Fleurs quand on s'appelle Genet? S'agit-il d'un livre au bouquet puissant?
Mais effectivement, vous avez du nez, Antoine. Oh, qu'est-ce qu'on rit dans cette émission. Oui. Le roman raconte la vie d'un assassin de 16 ans doté de ce qu'on pourrait qualifier sans exagérer la beauté du diable.
Mais sauriez-vous l'amabilité de nous en lire un extrait, s'il vous plaît.
Fort bien. Excusez-moi. Alors, je fus à lui à la seconde, comme si, qui dit cela, par la bouche, il m'eût déchargé jusqu'au cœur, entrant en moi jusqu'à n'y plus laisser de place pour moi-même, si bien que je me confonds maintenant avec gangster, cambrioleur, mac, et que la police, s'y trompant, m'arrête. Pendant 3 mois, il fit de mon corps une fête, me battant à tour de bras.
Sexe, Dame. Violence, poésie.
Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet. Pourquoi est-ce que ce livre vous a tellement tapé dans l'œil, si je puis dire?
Ben, ça a été un grand choc de lecture de jeunesse. Déjà parce que l'écriture est très poétique. Enfin, c'est un roman, mais c'est presque autre chose, quoi. C'est très poétique. L'écriture est. Il y a des décharges visuelles quand tu lis le roman. C'est très frappant. Et c'est un grand livre qui parle des marginaux, des oubliés, des délaissés de la société et qui les transforme en roi. Chez Genet, il y a quelque chose de très queer au sens où tout ce qui pourrait être source de honte ou de rejet devient quelque chose de glorieux. Donc moi, j'ai lu ça adolescente et je me sentais monstrueuse en étant ado et ça m'a donné une force folle de me dire... Et il y a une poétique du nom d'ailleurs dans ce livre. On se donne des noms, on se réinvente avec son nom. On dit ce soir je suis la très oubliée pour dire qu'on est très triste. Donc il y a une espèce de poésie constante comme ça qui et en même temps c'est très violent. Ça parle de ça parle de vol à l'étalage et de prostituées, de marins qui veulent faire l'amour.
Bien, passons au film. Pour le film, vous nous avez cité All That Jazz de Bob Fosse. Le titre traduit chez nous par Que le spectacle commence, sorti en 79. Charline, c'est aussi grâce à ce film que le démon de la danse s'est emparé de vous. Pitchez-le nous.
Ça et la salsa du démon. Enfin, c'est un détail. Joe Gideon, chorégraphe sous amphétamine, ne vit que pour et par le spectacle. Alors qu'il prépare une nouvelle revue, il est victime d'un infarctus et sa vie de défiler devant lui.
Candy Casey, very good. You're gonna do it again, Victoria. Stop smiling. It's not the high school play. Count.
A 5, 6, 7, 8.
All that work.
Stand on your right foot. Point your left toe. Drop that shoulder.
All that pain.
Too hard, is it? Oh boy, do I hate show business.
All that glitter.
Couple of jokes is what I mean.
Bill, you love show business.
That's right, I love show business.
All that love.
I'll go either way. It's showtime, folks.
All that jazz.
Oh,
That Jazz. En français, ça s'appelle Que le spectacle commence. C'est étrange, hein, comme.
C'est une drôle de traduction, ouais. Enfin, c'est pas exactement. Ouais, c'est pas littéralement la même chose, ouais.
Non.
All That Jazz, ça veut dire et tout ce qui va avec, quoi.
Ouais, tout ce qui va avec. Mais Bob Fosse, quand on aime la danse, on ne peut pas passer évidemment à côté de ce film-là en particulier.
Ouais. Puis de même de son travail de chorégraphe. Mmh. Même Michael s'est inspiré de Bob Fosse, en vérité.
À quel point il vous a marqué, lui?
Bob Fosse.
Ouais.
Bah, moi, je me souviens de ce film, c'est pareil, je vous donne des chocs de jeunesse comme ça. Boum, bam. En fait, ce que je trouve très beau, enfin, c'est toujours, il y a toujours des problématiques de superposition, de sublime et de dégueulasse dans les choses que j'aime bien. Mm-hmm. Parce que ce film, ça parle quand même de quelqu'un qui est en train d'agoniser à un moment d'un infarctus, donc il y a quelque chose d'horrible, quoi. Il est sur son lit d'hôpital et en même temps, il met en scène ses souvenirs, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à pas être dans la création aussi. Ce qui l'isole beaucoup. Enfin, en fait, c'est une belle métaphore triste un peu de la vie d'artiste aussi, c'est à quel point ça peut isoler, en fait, d'être tout le temps dans ses histoires. Il est incapable d'avoir une vie émotionnelle stable. Il a une fille dont il sait pas s'occuper bien. Parce qu'en fait, il est tout le temps possédé par l'envie de mettre en scène. Et c'est une discussion philosophique aussi sur le rapport à la vie, à la création. Et en même temps, il y a des super numéros dansés qui ont très bien vieilli. C'est encore très très moderne.
Ouais.
C'est pas du tout kitsch. Donc c'est un très beau film. Ouais.
Bon, alors j'ai un livre, j'ai un film. Maintenant, il me faut une série. Pour la série, vous avez choisi Twin Peaks, la série de David Lynch, hein, diffusée pour la première fois sur la chaîne ABC en 90. Charline, vous l'aviez résumé en disant une fille dans un sac dans une ville chelou.
C'est pas faux.
C'est pas mal.
Que pouvez-vous ajouter aujourd'hui?
Eh bien, j'ajoute une femme avec une bûche, un homme venu d'un autre endroit et une loge noire.
She's dead, wrapped in plastic.
Good Lord, Laura.
Laura Palmer. Was it seduction or illusion? Deception or murder? Nothing is what it seems.
Diane, 11:30 a.m., February 24th.
In a town like Twin Peaks.
Twin Peaks is different. Something very, very strange in these old woods.
A secret society.
Alors Chris, pourquoi cette fille? Pourquoi ce sac? Pourquoi cette ville chelou? Pourquoi cette bûche?
J'adore les voix des bandes annonces de séries, c'est toujours plus excitant. Moi j'aime beaucoup David Lynch, mais j'aime bien cette série parce que c'est quand même assez enivrant, parce qu'en fait c'est ça commence comme un polar un peu classique, une fille dans un sac dans une ville chelou, donc meurtre, donc qui, mais en fait au bout d'un moment très vite c'est même plus le problème.
On s'en fout. Oui.
Et ça devient une espèce de cette vie, c'est comme si c'était l'inconscient de quelqu'un pour moi. Enfin David Lynch, bon, on le sait, hein. Mm-hmm. Je crois qu'il avait dit qu'il faisait pas de psychanalyse exprès. Je sais pas si j'avais lu ça quelque part.
Oui, pour pas.
Ça s'explique,
pas spoiler,
hein. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui ne s'expliquent pas
se
dans son travail. Voilà, très bien, ça, hein, ça purge des névroses, clairement. Mais du coup c'est très c'est enivrant, quoi. T'es complètement happé dans une espèce de fiction où tu sais pas si tu rêves ou pas, ou si tu cauchemardes ou pas. Et il y a des moments assez flippants, alors que moi j'aime bien les... Enfin, c'est pas franchement film d'horreur, mais c'est juste une atmosphère comme ça de poison lent.
Légèrement anxiogène, oui.
Légèrement anxiogène.
Mmh, très bien. Bien. Eh bien, on va terminer cette pop list avec votre chanson culte, et cette chanson, c'est celle-ci.
Tous les soirs sans fin, je traîne un vieux désarroi dans mon gilet de chagrin, loin de la Dolce Vita.
Dolce Vita de Christophe, c'est un titre paru en 72, mais que l'on retrouve sur l'album du même titre sorti en 77. Chris, est-ce que cette chanson, vous l'écoutez chez vous, en enfilant votre vieux peignoir de Lord Anglais? Je sais, c'est une info qui peut faire frémir.
Non, mais c'est exactement ça. En fait, moi, quand je pense à chanson culte, je pense à quelle est la chanson que t'as envie de, comme on dit en anglais, lip-syncer. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu la chantes pas, mais tu l'interprètes devant ton miroir. Bah, pour moi, ça, c'est un sacré morceau d'acteur, quoi.
Avec une brosse à cheveux à la main.
Ouais, pour une fois dans ta vie, tu mets vraiment un rouge à lèvres exagéré, tu vois, que tu fais un peu baver, puis t'y vas, quoi. C'est vraiment une chanson pour faire ton acte, ton actrice ou ton acteur. Pour moi, c'est ça, une chanson culte. Et Christophe, c'est un, il est culte, quoi.
Ouais,
le dandy officiel de la chanson. Et d'ailleurs.
France Inter, pop. Antoine de Caunes
et Charline Heureux. Jean Genet, All That Jazz de Bob Fosse, Twin Peaks et Christophe, voici donc les pop choix de la Queen Chris, des pop choix toujours d'actu et recommandés par Pop pendant ce confinement. Retour au direct, Cyril Pedrosa est dans Pop dans 2 minutes, juste après un morceau signé de l'artiste dont je parlais en début d'émission, Bruce Springsteen. C'est One Minute, You're Here, un jeune gars, très bien, tu vois.
Big black train coming down the track, blow your whistle long and long. 1 minute you're here, next minute next minute you're gone. I lay my penny down on the rails, the summer wind sings its last song. 1 minute you're here, next minute you're gone. Baby, 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 I'm so alone. Baby, 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 I'm coming home. Autumn carnival on the edge of town, we walk down the midway arm in arm. 1 minute you're here, next minute you're gone. I thought I knew just who I was and what I'd do, but I was wrong. 1 minute you're here, next minute you're gone. Red River running along the edge of town, on muddy banks I lay my body down, this body down. Footsteps crackling on the gravel, stars vanish in a sky as black as stone. 1 minute you're here, next minute you're gone. 1 minute you're here, next minute you're gone. 1 minute you're here.
One Minute You're Here, cet extrait de Letter to You, le petit dernier. Et je vous invite à réécouter, bien sûr, l'interview de Springsteen au micro de Pop Pop il y a quelques jours. Et vient de ne pas nous rejoindre en studio, car il est chez lui, Cyril Pedrosa. Bonjour Cyril Pedrosa.
Bonjour Antoine de Caunes.
Je vous présente Charline.
Bonjour, bonjour Charline, bonjour.
Et avant de parler du tome 2 de L'Âge d'Or, j'aimerais savoir ce qui vous a le plus marqué parmi les pop événements de ces dernières 24 heures. Cyril, est-ce cette ambiance de cuisine? Car aujourd'hui, ce 5 novembre, ça marque la journée mondiale des hommes en cuisine.
Où est-ce Accidentally Wes Anderson, ce compte Instagram qui met en lumière des lieux qui pourraient être tout droit sortis d'un film du merveilleux Mr. Anderson, des clichés désormais regroupés dans un livre. Et je sais, Cyril Pedrosa, que vous êtes sensible au travail de ce réalisateur.
Ou bien est-ce cette triste nouvelle, la disparition de Claude Giraud, Slimane, dans Rabbi Jacob?
La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Eddie Merckx.
Cyril Pedrosa, votre choix.
C'est difficile de choisir, parce que la disparition de Claude Giraud, j'avoue que ça m'attriste. J'avais pas vu passer l'actualité. Mais, ouais. mais, je crois que Wes Anderson, au fond de mon cœur, ça m'émeut en toutes circonstances, en fait. Donc, je choisis celle-ci. Ouais.
Ouais. Et c'est un ouvrage absolument magnifique, que je vous conseille au passage. Nous sommes donc aujourd'hui avec le co-auteur de la suite de ce livre magique, L'Âge d'Or, qui nous avait littéralement retourné la tête en 2019. Mais qui est-il vraiment réponse avec son pop portrait? Alors oui, un pop portrait, ben, c'est un portrait, mais, et c'est signé Charline Roux.
Aujourd'hui, un invité qui nous avait expliqué que le premier tome de l'épopée qu'il clôt aujourd'hui était né d'un moment de désarroi politique profond dont il ne savait que faire. Mais heureusement, la situation est bien différente maintenant. C'est bon de rire parfois. Heureusement pour nous et en guise de consolation, nous recevons donc un invité qui fait du beau et le mot est faible avec le déroutant, le sidérant, voire le désarmant, et le mot est faible aussi. Ainsi, on lui doit les atermoiements et interrogations de Simon Mucha, auteur de bande dessinée en perte d'idées, qui cherche ses origines, son identité et un sens à sa vie dans Portugal. D'une histoire de deuil, il tire trois ombres de l'ultra-moderne solitude de Jean-Paul, il tire les cœurs solitaires et l'envoie direct en croisière. Notre invité a aussi participé à Parole sans papier, tout est dans le titre. À noter qu'il fait aussi du beau rigolo avec ses propres défauts dans Autobio, dans lequel il brocardait une tendance assez partagée concernant le greenwashing. Ah, l'écolo et ses contradictions. Et nous recevons donc un auteur qui fait de ses préoccupations des œuvres drôlement belles et concernées, des épopées comme celle dont on a attendu l'épilogue avec une certaine impatience. Et avec L'âge d'or, tome 2, nous voilà aujourd'hui comblés, mais pas complètement rassurés.
Oula, nous voilà aujourd'hui comblés, mais pas rassurés donc. On est d'accord avec ça, Cyril ?
Comblé, j'espère. Enfin, j'espère que les lecteurs seront comblés, pas rassurés. C'est difficile d'être rassuré en ce moment. Hein. Il faut déployer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et d'autoconviction quand même. Hein.
Alors, Cyril, voilà que paraît donc enfin la suite et fin de ce diptyque, L'âge d'or, 2 ans après le premier tome. Et je vous le dis comme je le pense, hein, c'est une attente largement récompensée, même si les circonstances font que le livre sort quand les libraires y ferment. Mais le livre est là. Comment fait-on pour se le procurer ? Que recommandez-vous personnellement ?
Alors, je recommande de contacter son libraire de quartier et de passer commande après lui, grâce au merveilleux système Click et Collect. Il y en a beaucoup, beaucoup de libraires qui font ça, vraiment. Et, et voilà, vous l'appelez, il vous le met de côté, il vous donne rendez-vous, vous venez le chercher, ça peut se faire en 24 heures et ça marche très, très bien.
Le tome 1 de L'âge d'or a été publié en septembre 2018 avec le succès qu'on connaît, a été auréolé d'un prix fort prestigieux, présidé par un homme qui ne l'est pas moins. Or, toute considération confinesque, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes au moment de cette sortie de tome 2 ?
Oh, c'est difficile de résumer ça. Je pense que tout le monde est très très chamboulé. Disons que je suis dans un état d'esprit où je mesure le privilège qui est le mien, c'est-à-dire que j'ai de la chance, mon livre peut sortir, je peux faire mon travail, je suis à l'abri, j'ai un ami proche qui est malade, mais ça va, il a l'air de tenir le coup. Et donc dans la tempête ambiante, j'ai l'impression que je suis assez préservé, donc ce qui me laisse de la place pour faire un peu attention aux autres, à ce qui se passe autour de moi, mais comme plein de gens, je crois.
Est-ce que vous avez fait un break entre les deux tomes ou tout a été écrit et dessiné dans la continuité ?
En fait, tout a été écrit dès le début. On a écrit avec Roxane l'intégralité de l'histoire parce qu'on pensait vraiment ce récit-là comme un tout. Et j'ai enchaîné le dessin. En fait, j'ai jamais vraiment arrêté. Ça fait presque 5 ans maintenant que je travaille sur l'âge d'or, en fait.
Presque 5 ans hein, de votre vie consacrée à ce projet grandiose.
Long, c'est vraiment très très long.
Bah oui, c'est vraiment très très long. Mais justement, comment se sort-on d'un univers qu'on a créé de toutes pièces avec Roxane Morail, notamment d'un univers aussi féerique que celui de l'âge d'or ? Comment est-ce qu'on fait pour retomber sur Terre d'une certaine manière ?
C'est une excellente question. C'est vrai qu'en fait, ça prend tellement d'énergie. C'est un dessin particulier qui demande beaucoup de voilà. Il faut envoyer du bois, quoi. Il faut mettre de l'ornement. Il faut mettre de la végétation. Il faut mettre des motifs, etc. Donc j'ai vraiment dépensé toute mon énergie là-dedans et ben c'était comme une espèce de petite descente tranquillement et puis on commence à penser au livre d'après et puis mais là dans l'instant je suis plutôt en train de penser à la sortie et j'ai hâte surtout que les gens le lisent en fait et l'intégralité du récit.
Alors, rappel pour ceux qui auraient raté l'épisode précédent, L'âge d'or, c'est l'histoire de Tilda, une princesse du Moyen-Âge qui se fait évincer du pouvoir et du royaume auquel elle était en droit de prétendre. Et comme elle est très courageuse, moderne et qu'elle n'a pas peur de grand-chose, elle va chercher ce qui lui est dû. Et dans ce tome 2, Tilda assiège le château de son frère pour reconquérir son trône. On se prépare à l'assaut et donc à de l'action pure. Comment est-ce que vous avez abordé ce volet, de fait, très dans le mouvement ?
Avec inquiétude, c'est-à-dire que je savais que j'aurais beaucoup de guerriers à dessiner, des cavalcades, etc. Alors, non mais c'est à la fois réjouissant et puis là aussi ça demande de l'engagement, mais il y a un vrai plaisir de dessin, de jouer avec ça quand même. C'est presque un désir d'enfance de jouer avec des petits soldats. Mais je savais que ce serait un peu comme un petit marathon quand même. Ce tome 2, j'avais un peu plus d'inquiétude pour le dessin de ce volume-là que pour le premier. Et je le savais quand on écrivait l'histoire avec Roxane. À chaque fois qu'on écrivait des nouvelles scènes, je disais mon Dieu, mais ça va être l'enfer à dessiner. Et c'était un peu l'enfer à dessiner, effectivement.
Ben soyez rassurés, parce que le feu d'artifice est là. L'âge d'or, ça reste jusqu'à la dernière image une fable politique aux résonances plus qu'actuelles. Charline le disait, hein, ce tome 2 est celui de la résolution des grands affrontements. Mais comment fait-on sur une narration aussi longue, aussi tumultueuse, il y a presque 2 fois 200 pages, pour garder l'équilibre entre l'aventure et le propos politique qui la sous-tend ?
Ça, c'est vrai que c'était une des parties les plus difficiles de ce travail avec Roxane. On s'y employait. Enfin, on n'arrêtait pas en fait de faire des mouvements. Parfois, on était un tout petit peu trop dans l'aventure et le divertissement et on perdait le fil de ce qu'on voulait dire politiquement. Et parfois, c'était l'inverse. On était trop théorique et un peu ennuyeux et on perdait le divertissement. Donc, c'est comme de mener un cheval en tirant sur les deux brides, quoi. Et donc, c'est beaucoup de relecture et puis de réexamen du texte, beaucoup, en fait. Et puis le fait d'être à deux, ça permet de faire ça aussi.
Et vous avez débuté ce projet en 2016, en pleine période préélectorale. Vous le sortez, enfin vous le terminez en 2020, en milieu de mandat français, on va dire, dans une période des plus compliquées. Qu'est-ce que ça inspire aux citoyens engagés, on le sait, que vous êtes ?
Oh, ça c'est un vaste sujet. Bon, je sais pas. Comme beaucoup de gens, je crois. Enfin, en tout cas, en ce moment, moi, je ressens beaucoup de tension intérieure et beaucoup de colère et beaucoup d'incompréhension de la situation et surtout une frustration dans l'envie d'agir sans savoir comment. Alors après, je fais avec les moyens qui sont les miens. Faire des livres, c'est un moyen. C'est un moyen, en tout cas, de dire quelque chose, de pouvoir. C'est difficile de se faire entendre en ce moment. On peut pas aller dans la rue, on peut pas protester. Donc tous les moyens pour pouvoir parler à voix haute sont bons à prendre. J'ai la chance de pouvoir le faire avec des livres. C'est une vraie chance, véritablement. Je pense que plein de gens sont frustrés en ce moment de ne pas être entendus.
Cyril Pedrosa, il est beaucoup question d'utopie dans l'âge d'or, c'est-à-dire cette période où les rapports de pouvoir, de lutte entre les classes n'existaient pas, où les hommes pouvaient aller et venir librement. On est bien d'accord, c'est donc quelque part entre l'âge de fer et l'âge de bronze.
C'est quelque chose comme ça.
Et pour les références de l'âge d'or, plus que Perrault, Game of Thrones ou autres séries moyenâgeuses, vous avez cité Kurosawa et le Château de l'Araignée. En quoi est-ce que cette œuvre, alors pour le coup en noir et blanc, ce Macbeth au Japon et au Moyen-Âge, vous a-t-il inspiré ?
Ah ben, beaucoup pour le tome 2, effectivement. En fait, j'avais énormément en tête cette scène du film, vous savez, où le seigneur, à la fin du film, se fait cribler de flèches.
Avec les flèches.
Ouais, c'est ça. Il est adossé contre la porte du château et il se fait littéralement déchirer. Et les cavaliers en haut de la colline avec leurs étendards qui apparaissent dans la brume. Et quand on écrivait les scènes de guerre avec Roxane, je me disais, mais c'est exactement cette référence visuelle que j'aimerais attraper un petit peu.
L'âge d'or, c'est la quête de cette aventure. C'est ce livre légendaire, ce livre trésor, capable de déclencher des tempêtes aussi bien que des révolutions. Quel a été le livre qui vous a fait cet effet-là, vous, Cyril Pedrosa ?
Alors ça dépend des registres. Disons que sur un registre littéraire et politique, je sais que les correspondances d'Orwell, que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, ça m'a beaucoup marqué. À la fois dans la lucidité de cet homme qui décrit une époque et qui essaie de transformer ça en action justement. Ça me frappe beaucoup. C'est dans des lettres qui datent des années 50. Il mesure la dinguerie de la situation et tout de suite il se dit voilà, en fait il faut créer tout de suite maintenant des imprimeries clandestines, s'organiser dans des caves, etc. Il prévoit le pire et il s'organise. Ça m'a fasciné et ça m'a marqué cet engagement comme ça dans l'action. Et puis après, en littérature, il y a plein de choses.
Mais Orwell, qui est toujours d'une actualité folle, et d'ailleurs, je signale au passage qu'il y a l'édition du Château des animaux, après la ferme des animaux, qui sort aussi ces jours-ci.
Ah, super.
Ouais, très beau travail.
L'âge d'or, cette fable épopée, on ne saurait choisir, se déroule sur 4 saisons. Est-ce que c'était une volonté artistique, puisque la palette de couleurs est une véritable splendeur, ou purement narrative ? Qu'est-ce que cet écoulement du temps et des saisons apporte à l'histoire ?
C'était surtout narratif. En fait, il y a une particularité dans le récit, qui est en deux volumes, mais une condensation de temps qui est très différente. La première partie, le premier volume, s'écoule sur plus d'un an. En fait, il y a une épopée, un voyage, alors que le deuxième volume se passe en quelques jours, en fait, à peine. Il y a une condensation du temps, et entre les deux, il y a une ellipse de plusieurs années. Et donc, jouer sur les saisons, ça permet de rendre perceptible, comme ça, la temporalité du récit. C'est toujours très compliqué, ça, en bande dessinée, de rendre compte du temps qui passe. C'est un vrai défi. Et les saisons, c'est un marqueur visuel qui permet de le faire assez facilement.
L'action de l'âge d'or, Cyril Pedrosa, se déroule dans un Moyen-Âge fantasmé. Repasser par le Moyen-Âge pour redéfinir une utopie, c'est parce que le présent n'est plus praticable ?
Le présent, il est difficilement praticable et surtout, certains mots sont difficiles à dire aujourd'hui. Enfin, on peut les dire, mais ils sont difficiles à faire entendre. Dire utopie aujourd'hui, on peut le dire, hein, mais c'est difficile à faire entendre. Et replacer cet enjeu-là dans une époque où, là, de toute évidence, les hommes et les femmes ont raison d'espérer. On le sait, le lecteur sait que l'homme du Moyen-Âge a raison de souhaiter l'abolition des privilèges. Il a raison de se battre pour ça, même si c'est une utopie. Ça permet de se dire, bah, peut-être aujourd'hui, on est dans la même situation. On croit à de l'impossible alors que cet impossible peut tout à fait advenir.
Mais on est sûr que l'âge d'or, c'est pas plutôt une dystopie. Pardon.
C'est une bonne question.
On peut lancer le débat maintenant, s'il vous plaît.
Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Vous savez ce qu'on va faire avant ? On va écouter un petit peu de musique. Cyril Pedraza, vous restez avec nous. On va continuer à parler de l'âge d'or dans quelques instants, du tome 2 qui vient de sortir aux éditions Air Libre. Absolument indispensable, je le répète à tous ceux qui nous écoutent. Mais on va écouter un peu de musique et c'est Chocolate Samurai. C'est un morceau signé du chanteur américain Fantastic Negrito.
Your mind, yeah, to get free tonight. Tell all of your friends to come over and get free tonight. Cut your hands in time, get free tonight. Yeah. Now the whole world is watching, get free tonight.
Thank you.
Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Nous recevons aujourd'hui Cyril Pedrosa, le co-auteur du tome 2 de L'Âge d'Or, un ouvrage très très attendu par ceux qui avaient déjà lu le tome 1. Cyril, avec Roxane Morey, vous avez hésité longtemps sur le choix de la période. On parle ici d'un Moyen-Âge très stylisé, très très fantasmé. Est-ce que la facilité pour vous, dès le départ, ça n'aurait pas été de choisir le futur, par exemple ?
Eh bien, en fait, le futur, ça ne marchait pas. Parce que le futur, c'était, parler du futur, c'était déjà décrire une utopie. Enfin, c'était, on demandait au lecteur d'adhérer à quelque chose qui n'existe pas. C'était, je crois qu'on aurait eu vachement de mal à le convaincre à ce moment-là. Alors que, s'ancrer dans le passé, dans notre histoire commune, c'est tout de suite avoir l'adhésion du lecteur, pas forcément sur ce qu'on lui dit nous, mais en tout cas sur les motivations des personnages, leur élan. Je crois que le lecteur, quoi qu'il pense politiquement, est du côté des personnages. Il sait que leur combat, il est juste. Il a envie qu'ils réussissent. En fait, il a envie que ce monde enfin soit bousculé. Je crois. Alors que le projeter dans le futur, c'était beaucoup plus compliqué.
Et puis dans l'inconscient collectif, ce monde féodal finit de toute façon par disparaître.
On le sait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment, on sait que ce monde qui, à l'époque, se croit éternel, comme aujourd'hui nous croyons que ce monde qui est autour de nous est éternel, on sait qu'en fait, non, il n'en est rien, c'est une construction, et qu'un jour il s'est écroulé. Et donc, on encourage presque, je crois, les personnages, mais bien sûr, allez-y, continuez, battez-vous, vous allez réussir. On sait qu'ils vont réussir d'une certaine manière, on le sait. Et ça permet de redonner une autre dimension quand on transpose cette question-là aujourd'hui. On se dit peut-être que nous aussi, on a raison de se battre encore, peut-être que ça peut vraiment s'écrouler. Ça aussi.
On l'a dit et répété à raison, ce tome 2 de L'Âge d'Or est d'une beauté spectaculaire. On se souvient que sur le premier, vous aviez, je vous cite quasi littéralement, sué sang et eau, nuit et jour, bref, vécu en immersion. Est-ce que ce deuxième tome a été aussi chronophage ?
Il était très chronophage, c'est vrai, mais plus que le premier, je crois, en fait. Mais parce que c'est la guerre, en fait. Ce deuxième tome, fondamentalement, c'est la guerre, et la guerre, il faut quand même un peu la dessiner, et ça prend du temps. Alors j'ai été beaucoup aidé, en particulier par Joran et Marie, qui m'ont aidé pour les couleurs, parce qu'en fait, là, il y avait un chantier devant moi qui était vraiment tellement immense que tout seul, je crois que j'y serais pas arrivé. Et on avait déjà travaillé ensemble sur le tome 1 ils connaissent bien l'univers comme moi et du coup ça m'a permis d'aller plus loin d'une certaine manière. Je crois qu'au niveau du dessin il y avait plus de complexité, mais au niveau des couleurs j'ai essayé d'approfondir aussi les gammes colorées, de chercher des nouvelles choses, de les déployer, et ce qui fait que c'était assez intense comme travail.
Cyril Pedrosa, votre méthode de travail est aussi inspirée de votre passage par l'animation, hein, par exemple dans le découpage d'une même action dans une seule image, ou dans la colorisation dont vous parliez à l'instant, la totalement délirante. Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau en conjuguant toutes ces techniques ? Est-ce que ça vous a ouvert d'autres portes ?
Ah, c'est vrai que, mais alors l'influence de l'animation, elle existe, c'est vrai, elle existe même de manière générale dans mon travail. C'est une influence dans laquelle même parfois j'ai du mal à y en échapper, en fait. Mais là j'ai appris mais en fait des choses assez techniques, c'est un peu difficile à décrire, mais justement sur l'usage des couleurs, j'avais assez peu fait de couleurs informatiques jusqu'à maintenant, et là j'ai appris en utilisant tous les outils de courbe à trouver des ambiances colorées que je suis incapable d'obtenir en fait en technique classique, et avec des contrastes voilà qu'on peut pas obtenir autrement et que j'espère bien utiliser plus tard dans d'autres livres.
Le personnage central de L'Âge d'Or, Tilda, donc, est une femme, et il m'est revenu que quand vous travaillez chez Disney comme assistant animateur, vous étiez en charge sur Hercule d'un autre genre de badass, Meg, si je ne m'abuse. Les deux ont pour point commun de ne pas être des héroïnes complètement du côté du bien, ou enfin, en tout cas d'avoir été un peu corrompues à certains instants par les épreuves. Comme on parle de pop culture, je me demandais si d'une manière ou d'une autre, vous ne seriez pas en train de tracer un chemin pour un certain type d'héroïne à la fois admirable et faillible.
J'aimerais bien avoir un sillon comme celui-ci, mais non. Mais d'abord, le personnage de Meg, j'en suis pas responsable. Je n'étais qu'un assistant parmi 10 assistants, voilà. Et c'est pas moi qui en ai inventé les contours psychologiques. Mais pour le personnage de Tilda, j'en suis autant responsable que Roxane. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on a construit à deux. C'est à la fois pour en faire un personnage qui fondamentalement soit humain et qui joue une histoire qu'on connaît depuis longtemps. Que se passe-t-il quand un être humain normal se retrouve avec du pouvoir ? Et ça, il se passe des choses compliquées, et y a, parce que ce pouvoir, il y a 1000 tentations, et une des tentations, bien sûr, c'est d'en user sans retenue et d'en user avec une toute puissance démesurée que plus personne ne contredit, et c'est malheureusement ce qui arrive à Tilda. Mais alors après, il n'est pas impossible que sur d'autres livres, peut-être pas des personnages féminins, mais que cette question-là du pouvoir, que rien ne peut arrêter, c'est un sujet intéressant, je trouve.
On parlait il y a un instant de Kurosawa. Est-ce que vous rêvez toujours d'adapter Rashomon en BD? Plus que de reprendre Tintin.
Parlez pas de Tintin. Non mais j'en serais incapable de reprendre Tintin. Il faut quelqu'un qui. Enfin, moi j'aime beaucoup ça, mais il faut quelqu'un qui soit fou amoureux, puis qui soit assez fou surtout pour reprendre Tintin. Rashomon. Ce serait fou, mais je sais pas si j'aurais la force de faire ça, parce que ça fait peur de s'attaquer avec Kurosawa. Faut quand même de l'ego, quoi. Je sais pas si j'en ai assez.
Cyril Pedrosa signalant aussi que le tome 2 de L'Âge d'or sort demain, c'est à 18h aujourd'hui même que l'on peut avoir accès à l'expo virtuelle des planches de L'Âge d'or. Il faut se connecter à galerie9art.fr, n'est-ce pas?
Absolument.
Et signalons aussi que vous avez envoyé 1000 dessins originaux aux libraires qui seront offerts, les dessins, hein, pas les libraires, aux 1000 premiers lecteurs qui les commanderont en click and collect. 1000 dessins, c'est 1000 fois le même ou 1000 dessins?
Ah, c'est 1000 dessins. Alors, honnêtement, de temps en temps, je répète certains dessins, on va pas se mentir. Mmh. Mais alors, ils sont pas encore envoyés parce qu'ils sont pas tout à fait finis. Je crois que j'en suis au dessin 353 là, à l'heure où je vous parle. Mais voilà, en début de semaine prochaine, je pense que j'aurai tout fini. Et j'espère que tout le monde sera content avec ça. C'était l'occasion, mais c'était très chouette parce qu'il y a eu toute une solidarité autour de ce projet. Et ça faisait du bien que tout le monde se serre les coudes là en ce moment.
Mmh. Ça remplace les dédicaces.
C'est exactement ça. Voilà, c'est un petit échange personnel.
En tous les cas, L'Âge d'or, le tome 2 aux éditions Air Livre, Cyril Pedrosa et Roxane Moreil, ça sort demain et il faut se jeter dessus. J'espère que vous aurez compris. Bien, pop break dans ce pop. Je ne peux pas mettre mon doigt dans ma bouche, ni dans la vôtre hein, d'ailleurs, Cyril, pour faire pop, mais je peux quand même vous dire que c'est l'heure des pop news.
Au point où on en est, pour se divertir, mais pourquoi ne pas sortir un bon vieux film d'apocalypse? Eh ben, c'est ce que s'apprête à faire George Clooney, acteur et réalisateur de Minuit dans l'univers, dans lequel il incarne Augustine, un astronome vieillissant qui a survécu à un mystérieux cataclysme. Il va essayer de convaincre un équipage de la NASA, en voyage retour depuis Jupiter, de ne pas revenir sur Terre.
That's Ether. It's a spaceship that we hoped would be our future. I have to warn them about the conditions on Earth. I don't know all the details. It started with a mistake.
There is an antenna that's stronger than ours.
We get to that antenna, they'll hear us. Take a deep breath.
George Augustine va donc tenter de joindre l'équipage du vaisseau Ether grâce à une antenne géante dans l'Arctique, pourquoi pas. Et la suite, c'est dans Minuit dans l'univers, ça sera le 23 décembre sur Netflix.
Un nouveau titre signé Arcade Fire. Les Canadiens ont dévoilé Generation A lors du Late Show de Stephen Colbert. Win Butler, leur frontman, a expliqué qu'il avait composé 2 ou 3 nouveaux albums d'Arcade Fire durant ce confinement. Pour l'instant, pas de date annoncée pour l'album qui succédera donc à Everything Now, sorti en 2017.
Et la prescription du jour est jouer et filmer. Le coup d'envoi du Nikon Film Festival a été donné. Il est temps de faire preuve de créativité en 2 minutes 20. Le thème de cette année est un jeu à illustrer à travers une fiction, un film d'animation ou encore un documentaire. Chaque réalisateur pourra télécharger autant de vidéos qu'il le souhaite, d'une durée comprise entre 120 et 140 secondes, générique inclus et sous format haute définition. Il faut envoyer son œuvre avant le 13 janvier 2021 à midi. Les formulaires d'inscription sont disponibles sur www.festivalnikon.fr. Le jury sera composé de lui.
J'ai absolument rien écouté de ce qu'il m'a dit.
Jonathan Cohen, Louise Bourgoin, Alice Belaïdi, Maïmouna Doucouré et le tout présidé par lui.
C'est pas pain de mie? C'est pandémie.
Éric Judor, l'ensemble des films en compétition sont publiés sur le site et soumis au vote du public. À vous de jouer.
France Inter. Popopa. Antoine de Caunes.
Boomerang, évidemment.
Ah, c'était Augustin Trapenard.
Non, Augustine, le personnage de George Clooney dans le film Apocalypse, mais oui.
Mais il n'y a pas de boomerang dans le film d'Apocalypse.
J'ajoute une pop news, car Sébastien Tellier, sosie non officiel de Sébastien Chabal, a annoncé hier un cadeau pour nous les confinés. Un nouvel album surprise qui l'a annoncé avec ce teaser. C'est l'occasion d'écouter un classique du Barbu pour patienter et je vous propose Roche. Antoine. Sébastien Tellier, cet extrait de l'album Sexuality. Avant ce nouvel album annoncé pour vendredi prochain. Donc, vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Sur c'est l'intro de I Want You Back des Jackson 5, le son pop par excellence selon Cyril Pedrosa. Pourquoi ça, Cyril ?
Ah mais c'est la meilleure intro du monde, meilleure intro du monde. Non mais en fait non mais cette chanson je sais pas, n'importe quel enfant de 6 ans qui a écouté ça comme moi dans sa cuisine en train de faire ses devoirs et a aucune capacité de concentration, il a juste envie de sauter sur la table, de danser dans tous les sens et c'est la vie quoi. C'est vraiment la musique de la joie vraiment hein.
Parfait. Eh bien, Cyril Pedrosa, je fais comme vous, je fais comme Michael Jackson en allant en moonwalk vers votre pop-list, mais avec des chansons isotonnerres et sur de la moquette. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et un personnage de série. Pour le livre, vous avez choisi Vinland. C'est un roman de Thomas Pynchon, publié en 1990 aux États-Unis. Charline, je sais que je vais vous stupéfier, mais je n'ai jamais lu Vinland. Je sais, c'est moche, mais justement, dites-moi de quoi ça parle.
Je suis stupéfaite. Prairie cherche sa mère qui l'a abandonnée. Frenesi Gates, activiste gauchiste charismatique, mais elle n'est pas la seule. Un procureur fédéral de type fascisant est aussi à ses trousses et pour la retrouver, le Deep Rock s'adresse à Zoid Wheeler, soit le père de Prairie, un fumeur de weed invétéré dont l'activité principale consiste à se jeter à travers une fenêtre chaque année devant une caméra et ce uniquement pour toucher la prime d'État aux handicapés mentaux.
Oui, il se passe des choses. Bon. Cyril Pedrosa, auriez-vous la gentillesse de nous en lire un extrait avant de
Avec
nous expliquer votre choix ?
Avec plaisir. Plus tard que d'habitude, un matin d'été 1984, Zoid Wheeler s'éveilla lentement dans un rayon de soleil qui filtrait à travers un figuier rampant qui pendait devant la fenêtre, tandis que toute une escadrille de jets bleus manœuvrait lourdement sur le toit. Ses rêves avaient été pleins de pigeons voyageurs venus de l'autre côté de l'océan et qui ne cessaient d'atterrir et de décoller à la queue leu-leu, avec chacun un message pour lui, mais à cause de la lumière qui vibrait sur leurs ailes, il n'arrivait jamais à les rattraper à temps.
Merci Cyril. C'est extrait de Vinland, donc de Thomas Pynchon, le livre que vous avez choisi. Maintenant expliquez-nous pourquoi ce Vinland.
C'est un vrai choc de lecture ce bouquin, je l'ai lu assez tard, enfin il y a une quinzaine d'années, quelque chose comme ça, et en fait il est fou, ce livre est fou, il est drôle, il est extravagant, Pynchon, c'est vraiment un auteur où il y a sans arrêt des digressions, mais là avec un fil qui est peut-être un peu plus facile à suivre que sur d'autres bouquins, et en plus ça parle de l'Amérique, mais d'une manière à la fois dingue, folle, mais comme peut l'être l'Amérique, et qui résonne vraiment assez fort avec ce qui se passe aujourd'hui, où tout explose de tous côtés, voilà, c'est l'Amérique aujourd'hui, c'est comme dans Vinland, en fait.
Vous m'avez convaincu, je vais me le procurer de ce pas. Cyril Pedrosa, pour le film, j'en filme ma combinaison. Car vous choisissez La vie aquatique de Wes Anderson. Charline, dites-moi quand mon bain est prêt, s'il vous plaît.
Je mets le petit canard comme d'habitude.
Oui.
Steve Zissou, Bill Murray, chef de l'équipe océanographique, part pour ce qui semble être sa dernière expédition. Embarque avec lui Ned Plimpton, Owen Wilson, qui peut-être ou peut-être pas, et son fils. Jane Winslet Richardson, Kate Blanchett, une journaliste enceinte dépêchée par le magazine océanographique Explorer. Et Eleanor, sa femme Angelica Houston, que l'on prétend être le cerveau de la team Zissou. Et il y a aussi Pelé Dos Santos, soit c'est ou Georges, qui reprend du Bowie.
Le Belafonte, le vaisseau mère de l'équipe Zissou. Un groupe de spécialistes en plongée sous-marine, d'aventuriers, de réalisateurs de documentaires.
Moteur.
Mené par l'océanographe de renommée internationale, le commandant Steve Zissou, qui connaît parfaitement tous les mystères de la vie marine.
Faites bien attention, il y a des sangsues. Vérifiez que vous n'avez pas de sangsues. Personne n'a été attaqué, je suis le seul. C'est quoi cette histoire?
Mais il reste une forme de vie que le commandant Zissou connaît très peu.
Alors, il paraît que tu es mon fils, c'est ça?
Attendez, faut que je me débarrasse du petit canard. Voilà. Alors, pourquoi la vie aquatique de Wes Anderson plutôt que la bonne vieille collection de toutes les cassettes VHS du commandant Cousteau, Cyril Pedrosa?
Parce que le commandant Cousteau, c'est beaucoup moins drôle et tendre. C'est très chouette aussi, hein. C'est un beau souvenir de jeunesse. Non, mais la vie aquatique,
c'est moins drôle.
Mais c'est beaucoup moins drôle. Et puis, c'est moins tendre. Et non, mais la vie aquatique, c'est un film quand vous avez envie que quelqu'un vous prenne dans vos bras. Et si c'est pas possible, là, maintenant, regardez la vie aquatique, ça peut être un bon ersatz. C'est quelque chose qui vous fait ça, je trouve, en fait.
Parfait. Alors, Actarus, c'est le personnage pop que vous avez choisi, Cyril. C'est du dessin animé Goldorak. Hein. Charline, vous allez rire, vous allez voir. Mais pendant longtemps, j'ai cru qu'on disait Golderay. C'est amusant, non?
Alors, en trois syllabes, O-D-K. Prince héritier de la planète Euphor ayant fui sa planète natale à bord de Goldorak après la destruction de sa civilisation par les forces de Vega, Actarus doit reprendre les commandes de sa machine pour défendre la Terre.
Et Actarus qui manœuvre Goldorak, ben ça donne ça avec plein de sons du futur dedans.
Transfert. Autolargue.
Cyril Pedrosa, vous savez chanter comme Bernard Miaou, le générique de Goldorak.
Goldorak, voici la légende.
C'est bon là, merci Gisela. Alors, vous savez le chanter?
Non, je sais pas. Enfin, je crois que les auditeurs sont pas prêts à ça, en fait. Ça irait beaucoup trop loin.
Alors, pourquoi Goldorak?
Mais Actarus, c'est le héros de mon enfance. Je voulais être Actarus. Enfin, je pense que beaucoup de garçons de ma génération voulaient être Actarus. Il était magnifique. Il sauvait le monde et en plus, il savait faire du cheval, quoi. Il sait tout faire.
Est-ce que vous êtes devenu Actarus?
Malheureusement pas. Je voulais être Actarus et savoir dessiner comme Uderzo, je sais ni l'un ni l'autre, mais...
On se calme. Bon. Bien, Cyril, terminons cette pop-list avec votre chanson culte, et cette chanson, c'est celle-ci. Getting Better des Beatles, c'est mieux que le générique de Goldorak par Bernard. Non,
c'est un peu mieux.
Mais vous n'allez pas en rester là, dites-moi deux mots sur It's Getting Better.
Non mais It's Getting Better, mais c'est beaucoup un choix de la joie en fait. It's Getting Better, c'est vous n'avez pas le moral, il fait beau dehors, vous mettez cette chanson là dans vos oreilles et tout va mieux, tout va beaucoup mieux.
Donc ça, le Wes Anderson, le Vagland. Bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça fait ça.
Faites bien attention, il y a des sangsues.
Zoid Weller s'éveilla lentement dans un rayon de soleil qui filtrait à travers un figuier rampant.
Autolargue.
Il a quel goût ce smoothie de pop culture signé Cyril Pedrosa?
Il est dense, il est vraiment dense.
Il vous redonne la pêche?
Ouais, plutôt. Mais là, c'est plutôt une sélection qui fait la pêche, je trouve.
Ouais. Bon, vous savez que José Garcia, qui était dans Pop cette semaine et qui nous écoute hein, en ce moment, a eu une légère obsession. Je le cite au mot près, les Beatles, virgule, je les encule, fin de citation. Une phrase qu'il répète ici à chaque visite. Et bien, en attendant, mon cher José, je te propose de les écouter. Non, c'est pas tout à fait le même verbe. Avec le morceau préféré de Cyril, It's Getting Better. Getting Better dans Pop sur France Inter pour le plus grand plaisir de José Garcia. C'est le morceau choisi par Cyril Pedrosa, notre invité aujourd'hui. Cyril, nous venons de parler pendant cette petite heure de pop culture, mais au fait...
C'est quoi pour vous la pop culture, Cyril Pedrosa?
Il y a beaucoup de définitions à ça, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, et on en a parlé pas mal pendant l'émission, j'ai l'impression que la pop culture, vraiment, c'est celle qu'on va chercher quand on veut fondamentalement se faire du bien. Il y a quelque chose de l'ordre de la joie offerte et reçue. Voilà, quelque chose comme ça, vraiment. Et c'est la culture du réconfort, mais et c'est bien. Et c'est précieux d'avoir ça. Et on se rend compte vraiment dans les moments de coup dur où on sait que là, si on écoute cette chanson-là, on va vraiment se sentir bien, fondamentalement.
Parfait. Eh bien, restons sur cette note positive. Merci infiniment, Cyril. L'âge d'or, volume 2, c'est à retrouver aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre dès demain. Et c'est plus que chaudement recommandé par Pop. Et j'en profite pour annoncer l'expo virtuelle de l'âge d'or 2. C'est à découvrir dès aujourd'hui à 18h sur le site de la galerie 9e Art. Merci Charline.
Merci Antoine.
Merci Cyril.
Merci Antoine.
Et merci à toute l'équipe de Pop et à Florent Layani qui était à la technique aujourd'hui. Demain, dans Pop, l'artiste Abraham Poincheval. Ne ratez pas ça. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop.